Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, notre carillon de qui sonne midi comme tous les jours prend un sens différent parce que aujourd'hui, on va en parler et nous recevons Denis-Pierre Villeneuve qui est le carillonneur de Buglose. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour.
Très bien, alors on va passer petite heure ensemble, on va découvrir notre invité et puis son instrument qui on peut dire est unique maintenant à l'heure actuelle et qui est pas loin de chez nous, encore une fois, il y a souvent des petites perles qu'on des fois on ignore un peu mais on est là pour les mettre un peu en lumière. On va d'abord écouter le flash info national et international et on retrouve ensuite notre invité pour le début de cette émission. Et nous voilà de retour avec notre invité Denis-Pierre Villeneuve, donc le carillonneur de Buglose. Alors on commence toujours l'émission par une petite trajectoire personnelle, mais là c'est vraiment un lié au sujet, hein, parce que on est curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'est venu, comment vous êtes arrivé à cette place là de carillonneur. Alors vous êtes natif de Buglose déjà pour commencer.
Oui, tout à fait, natif de Buglose. J'entendais ce carillon. Mon prédécesseur était un abbé qui avait des problèmes cardiaques, qui pouvait monter jouer une fois par mois, mais qui pouvait pas actionner le mécanisme vraiment du carillon. Mmh. À l'époque, j'avais 12 ans, il m'a désigné pour aller lui actionner le mécanisme à la mer. Et 45 ans après, j'y suis toujours.
Ah ouais, d'accord. Alors, il y a une transmission sur le jeu, c'est-à-dire, quand même, on vous a mis devant le... Parce qu'on va parler évidemment de l'objet lui-même, hein, qui est particulier. Mais est-ce que quand même on vous a appris à en jouer un petit peu ou
non? Tout à fait. Au départ, j'étais là pour tourner la manivelle pour l'action du mécanisme. Et peu à peu, des frères Jacques, des choses comme ça, des petits morceaux. Et puis, peu à peu, j'ai pris la relève.
D'accord. Donc, alors, est-ce que vous avez, alors, une question très belle, mais une formation musicale académique de quelque sorte que ce soit ou pas?
Piano au départ.
Piano, voilà, ouais.
Et maintenant, je me consacre entièrement au carillon.
C'est vrai qu'il a quelque chose de particulier ce carillon, bien sûr, c'est que justement le piano, il a un clavier qui fait penser à celui d'un piano en plus petit, hein, que seulement 3 octaves. Et donc quelqu'un qui saurait jouer du piano saurait en théorie jouer de ce carillon ou pas?
Oui, il y a une adaptation à faire, notamment parce que ce sont des cloches qui résonnent. Lorsqu'au piano vous appuyez sur une touche, lorsque vous relâchez la touche, un étouffoir vient étouffer la corde.
Tout à fait.
Que la cloche continue à sonner, donc il faut adapter son jeu en fonction de ça.
Ah oui, c'est vrai, c'est bien de le dire parce qu'on n'y pense pas forcément. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif pour amortir la vibration de toutes les cloches parce que sinon ça serait un peu. Bon, soit possible en théorie, mais effectivement, c'est une technique qui est forcément particulière. Alors, je vois que vous êtes aussi administrateur de la Guilde des Carillonneurs de France parce qu'on n'imagine pas forcément que ce genre de choses existe quand on ne s'intéresse pas au sujet.
On est 65 carillonneurs en France. Ouais. On se réunit régulièrement, notamment la semaine prochaine, on va aller à Châtellerault pour notre congrès annuel. Mm-hmm. Et ça permet d'échanger et de voir un peu toute l'actualité du carillon nationalement.
Oui. Alors il y a aussi l'équivalent à l'échelle mondiale, j'ai vu ça.
Tous les 4 ans, les carillonneurs mondiaux se réunissent. Ça s'est passé le mois dernier à Mafra au Portugal. D'accord. Où là, il y a un immense carillon de plus de 150 cloches, en fait, il y a 2 carillons, dans 2 tours dans le même bâtiment.
D'accord.
Et c'est là qu'a été le point de rendez-vous pour le congrès mondial.
Mmh. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de congrès? Alors, il y a des conférences, il y a quoi?
C'est des conférences, après des études, notamment pour les claviers, savoir quelle distance on doit mettre entre les touches pour les normalisations de clavier et un jeu plus régulier, et des discussions comme ça.
D'accord. Bon, c'est un milieu, un monde qu'on ne connaît pas forcément, surtout qu'il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, là, dans les Landes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de carillons, c'est le seul.
C'est le seul.
C'est le seul, d'autant plus qu'il a un mécanisme qui est aussi le dernier qui a existé. Je crois qu'il y en a eu d'autres.
Voilà, très particulier. C'était le premier qui a été construit comme ça, qui a été copié à 2 exemplaires. Et actuellement, seul Buglose continue à fonctionner. Les 2 autres ont été détruits.
D'accord. Et alors, vous dites carillonneurs, il y en a quoi, une soixantaine en France
hein? Voilà, on a une soixantaine de carillonneurs, d'accord. Oui.
Alors, c'est plus dans... Alors, on a peut-être l'image aussi du beffroi dans le Nord, etc. C'est là qu'il y en a le plus.
Le carillon, c'est un instrument de beffroi avant d'être un instrument d'église. C'était la voix de la ville.
Oui.
Et effectivement, c'est plus dans le Nord, bien qu'on en ait aussi dans le Sud, autour de Toulouse, autour de Chambéry.
D'accord.
Mais lorsqu'on étudie l'implantation des carillons, c'est vraiment la zone d'influence des fonderies. Il y a une grosse fonderie à Annecy. Il y avait des fonderies à Toulouse, des fonderies dans le Nord et en Belgique, et c'est ce qui a fourni l'implantation des carillons.
Ah oui, d'accord. C'est un... ce fameux carillon, donc c'est vrai qu'il a un mécanisme particulier. Bon, j'engage évidemment les auditeurs à aller voir sur votre site internet, je mettrai les liens. On voit des vidéos où vous jouez. Alors, ce qui est intéressant dans ces vidéos, alors d'une part, on entend les cloches, mais on entend aussi le mécanisme du carillon lui-même. Et... On voit aussi que moi, ça m'a fait penser un petit peu à un métier à tisser, en fait. Un petit peu cette machine-là et les bruits qu'on entend, etc. Alors, ce qui est un peu surprenant, parce qu'il y a un dispositif qui est vraiment particulier, c'est pas ce qu'on appelle à coup de poing. On a pu voir des fois dans des vidéos ou à la télé.
On filme les ch'tis.
Voilà, sur les ch'tis. Voilà, donc vraiment, on file des pains sur des trucs qui tirent d'un coup, glan, qui tapent la cloche. Hein. Donc, vous n'êtes pas non plus le curé qui s'envole en tirant sur la cloche.
Non plus.
Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un dispositif très particulier qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle... comment est-ce qu'il s'appelle ?
L'abbé Maisonnave.
L'abbé Maisonnave, voilà. Donc, du coup, il y a une petite histoire qui est intéressante, là, si on pouvait en parler un petit peu.
Maisonnave, c'était un abbé, un chanoine, qui était professeur de mathématiques et de physique au petit séminaire, qui passait son temps libre à bricoler, à mettre en application ses principes de maths et de physique et à déposer des brevets d'invention. Je vais voir qu'est-ce qu'il avait pu inventer. Ça va d'une horloge astronomique à 14 cadrans mue par une pile Volta jusqu'à un harmonium dans la carcasse d'un piano.
Ah oui, oui.
Et lorsque l'évêque qui voulait ce carillon va lui parler de ce problème de carillonnage sur touche en bois, qui demande une dépense musculaire. Le chanoine a inventé à Buglos un système révolutionnaire. Le système a bien fonctionné, il a été breveté. La fonderie a racheté le brevet tellement que ça fonctionnait bien. A fait une copie du carillon de Buglos qu'elle a placé à l'exposition universelle de Paris en 1900 et l'a vendu à deux exemplaires, à Pontmain dans la Mayenne et à Philadelphie aux USA.
D'accord.
Et actuellement, seul ce Buglos, les deux autres instruments ont été détruits.
D'accord, ben voilà, vous savez, des fois on parle d'instruments rares, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler du cristal bâché hein, qu'on peut trouver à Pôle Sud, à Tyros, qui a été créé par les frères Bâché de Souston dans les années 50, etc. Mais là, il y a 60 exemplaires dans le monde, c'est déjà rare, mais là... Celui que vous avez là vraiment c'est un seul exemplaire, donc c'est le seul survivant de génération. Alors c'était une commande en fait de Monseigneur Delannoy en fait, mais à lui il venait du Nord en fait.
Voilà, Delannoy venait du Nord.
Et oui, forcément.
Il avait entendu et vu des carillons dans son enfance. Il voulait que le carillon, que la basilique, à l'époque l'église de Buglos devienne le joyau de son diocèse. Certaines de ses paroles ont été: si la tête du diocèse est à R, l'évêché est en R sur Adour, le cœur en est à Buglos, c'est-à-dire l'importance qu'il portait à cette basilique, et pour couronner cette basilique, il a pensé y faire un salin carillon.
Oui, donc voilà, ça lui a pris comme ça, et donc il a quand même vu de son vivant, parce que ça a pris combien de temps entre le moment où il a dit tiens, on va faire ça, et le moment où ça a été fait?
Ça a pris ça a pris 5 ans pour la première inauguration, et après il y a eu des rajouts de cloches entre 1895 jusqu'à 1925.
Oui. C'est déjà relativement rapide pour l'époque, hein, pour mettre en œuvre un dispositif aussi compliqué.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'il était quand même doué.
Oui, Maisonnave était doué et le fondeur répondait aux commandes, bien sûr.
Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, il était content. Il avait son carillon. Donc 1895, c'est ça?
Oui.
Donc ça a été exposé à l'exposition universelle de 1900.
De 1900 au Palais de la Métallurgie.
Voilà. Donc du coup, il a fallu déplacer tout ça.
Ah non, ça a été un autre exemplaire.
C'est un autre exemplaire.
Qui a été fait pour le Palais de la Métallurgie. Et quand ils ont démonté l'exposition universelle, dernièrement, on s'est aperçu que les cloches qui composaient ce carillon sont parties à Cordoue, en Espagne. Et apparemment, la machine qui aurait été présente à l'exposition universelle aurait été installée à Buglos dans les années 1920. Aurait remplacé l'ancienne machine.
Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que peut-être qu'elle était plus...
L'ancienne machine était en bois. Oui. Que ah, la nouvelle oui. était en fonte.
Ah oui, c'est ça, il y a voilà. un cadre. Mais c'est vrai, il faut que vous voyez la vidéo hein, pour avoir une idée, parce que c'est pas évident. De... Il n'y a pas de, directement de. Comment dire, quand vous appuyez sur la touche, ça ne tire pas forcément directement sur la cloche. Et qu'il y a un dispositif qui tourne. D'ailleurs, à quoi il sert ce dispositif
Alors,
qui tourne
un, c'est basé sur le déclenchement de ressort. Lorsque j'appuie sur une touche, ça fait déclencher un ressort qui va tirer la transmission. Et la roue qui tourne mue grâce à mes pieds, elle permet de retendre les ressorts juste au moment où ils sont détendus pour, les, pour être prêts à repartir pour le deuxième coup sur la même note.
C'est vrai qu'on voit une vidéo où on vous voit avec les pieds, donc il y a des espèces de deux grosses pédales, on va dire. Voilà. Ça fait penser un petit peu aux machines à coudre de jadis.
Voilà, ou l'harmonium.
Ouais, voilà, qui permet de faire tourner le dispositif.
Voilà, de donner de la force à la machine.
Ouais, voilà, ouais. Moi, c'est quelque chose d'assez, d'assez original, d'assez intéressant. Moi, je pense qu'on va déjà faire une petite pause et puis on va écouter, évidemment... Hein, notre invité qui nous interprète une gigue, hein, et puis on pourra en parler après ça. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. Voilà, de retour. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Alors, ça, c'est l'enregistrement. C'est vous qui jouiez, évidemment.
Voilà. Alors, c'est une gigue attribuée à François Couperin.
D'accord. C'est de quelle époque, ça, à peu près ?
1700 et quelques, il me semble.
D'accord.
Couperin.
Ah oui, ça commence à faire. Oui, bon. Oui, alors, du coup, ce carillon, à quelle occasion sonne-t-il ?
Alors, là, il sonne tous les jeudis après-midi de février à novembre, à 15h30, où j'organise une petite séance. C'est-à-dire, d'abord, je réunis les gens pendant à peu près une demi-heure pour expliquer le fonctionnement, l'historique de l'instrument. Et après, je monte jouer pendant un quart d'heure.
Oui, voilà. Donc, ils ne sonnent pas tout seuls, mis à part quand ça sonne l'heure. C'est une des cloches qui sonne.
Voilà, l'heure, c'est totalement indépendant. C'est une horloge qui va taper sur une cloche chaque demi-heure.
Ouais. Et donc, évidemment, ce carillon ne résonne pas en dehors de quand c'est vous qui vous en occupez.
Voilà, moi, je ne m'occupe pas de l'horloge.
Bien sûr, oui. Alors, je me posais la question aussi, hors antenne, voilà, quel était un peu votre statut, vous, en tant que carillonneur. Je me demandais si vous étiez employé par la mairie, par le que sais-je.
Alors, je suis salarié de personne. Ouais. J'ai monté mon affaire en micro-entreprise. C'est-à-dire que tous les jeudis, je réunis les gens pour jouer.
Voilà. Et là, comment dire, alors, qui c'est le propriétaire du carillon, c'est quoi, c'est
alors,
l'église?
Le
Rodez ?
Non, le propriétaire du Carillon, qui est le propriétaire de la basilique, oui. Puisque le Carillon est immeuble par destination, c'est le département des Landes.
D'accord. Et donc, ils vous donnent la concession, l'usage du Carillon, puisque de toute façon, vous le faites vivre en contrepartie.
Oui, c'est encore plus compliqué, parce que c'est l'usage d'un édifice religieux est l'usage exclusif du prêtre.
D'accord.
Donc, c'est par les prêtres que j'ai l'accès au Carillon.
D'accord. Donc, c'est les prêtres qui vous donnent l'accès au
Carillon.
Oui, oui. Il y a tout un protocole. Hein.
Ah oui, oui.
Ça rigole pas. Hein.
Bah, c'est la loi 1905, c'est assez compliqué. Il ne faut pas la bouger. Et voilà.
Ah, la séparation de l'État et de l'Église.
Et de l'Église.
Mais oui, c'est vrai que là, vous êtes un carillonneur laïque.
Oui, tout ça.
Oui, oui, c'est ça. Et oui, alors, qu'est-ce que vous jouez comme type de pièces?
Un peu de tout.
Classiques, surtout.
Voilà, du classique, comme on vient d'entendre, du régional, les secantos et tous les chants, des trucs un peu plus populaires auprès de ma blonde, des choses comme ça, Frère Jacques.
Oui, oui.
Et après, quelques morceaux de plus modernes, quoi.
Donc, alors, ce carillon, en fait... Jadis, il servait à quoi? Parce qu'on l'entend évidemment de loin, et donc il servait comme un orgue, mais utilisé de l'extérieur.
Voilà, c'était au départ, c'était pour accompagner les processions, qui étaient nombreuses à Buglose. Maintenant, il n'y en a plus, donc le carillon a repris son rôle d'animation.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a tous en tête, les ding-dong assez simples de clocher d'église quand il se passe quelque chose, pour annoncer une messe ou le tocsin ou que sais-je. Mais là, par contre, c'était vraiment de la musique. Hein.
Voilà, c'est de la musique. Là, j'ai 60 cloches, donc 60 tonnes de musique.
Voilà, donc il y a 60 cloches. Donc, on en a parlé un petit peu en antenne. On va essayer de ne pas être trop technique, mais c'est vrai que c'est un instrument particulier, quand même, la cloche. Alors, on a reçu ici, je suis sûr qu'il aurait pu en parler, on a reçu ici le président du Festival des Abbayes, qui, lui, il est premier... joueur de l'Orchestre National de France et spécialisé en percussion. Donc je pense que vu son niveau, on en avait discuté, il doit en connaître un rayon à mon avis. Mais c'est quand même assez particulier, hein, parce que on peut pas rentrer dans trop les détails techniques, mais c'est vrai que la plupart des instruments, ils ont des fondamentales et des harmoniques, hein, c'est des multiples. Mais là, ça marche pas comme ça en fait.
Non, le carillon, c'est du moins la cloche, c'est du partiel. C'est-à-dire, au lieu d'être des multiples de la fréquence, c'est des notes qui ne sont pas double, triple ou quadruple.
Voilà, ouais.
Bon, c'est assez compliqué techniquement.
Oui, mais... voilà, ouais. Ouais. Mais ça, du coup, ça rend un peu plus difficile la gestion de tout l'ensemble, et, entre guillemets, alors l'accordage, parce que les cloches s'accordent une fois. Hein.
Voilà, tout à fait. L'accordage, bon, c'est le fendeur qui va s'en occuper, le facteur de carillon qui va s'en occuper. Après, le carillonneur, lui, c'est animer ses cloches, mais il y a des combinaisons de cloches qu'on peut pas jouer parce qu'il y a des problèmes d'accordage, justement.
Entre, oui, ça va frotter, comme on dit, ça va faire mal aux oreilles.
Entre deux cloches, ça ne va pas.
Et oui, c'est vrai. Oui. Ouais, mais voilà,
faut étudier pour assembler l'histoire.
Oui, mais justement, alors, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme... On a parlé de votre initiation à 12 ans, vous avez commencé à vous en occuper, mais vous avez pris des tas de choses pour en arriver où vous en êtes maintenant.
Voilà, au départ, c'était le piano, un instrument de musique. Comme j'avais ce carillon à côté, bien, très vite, ça s'est orienté plus sur le carillon que sur le piano. Et après, le carillon, grâce aux associations, notamment la Guilde des carillonneurs de France, des stages en fonderie, des stages d'acoustique au laboratoire de Jussieu, des choses comme ça, pour parfaire la connaissance de l'instrument.
Ah oui, ça c'est vachement intéressant, parce que vous avez du coup acquis des compétences, notamment en fonderie. Donc, parlons des cloches. Alors... En quoi sont-elles faites, ces fameuses cloches?
Alors, en bronze à cloche, l'airain,
oui,
qui est de 78% de cuivre et 22% d'étain.
D'accord. Donc ça, c'est un standard, on va dire. Toutes les cloches des églises, etc., c'est fait en général en ça ou pas?
Les cloches, ils sonnent bien, oui, sont faites comme ça. Après, les cloches qui sonnent moins bien, notamment au Moyen-Âge, où les fondeurs étaient payés au poids de la cloche, ils émettaient du plomb, ils émettaient un peu n'importe quoi, de l'antimoine, pour alourdir la cloche, mais ça donne pas des bons résultats sonores, quoi.
Après, de l'antimoine pour un clocher d'église, hein, je sais pas si c'est très gentil,
voilà.
Ça.
Et l'antimoine a la particularité, lorsqu'on veut changer une cloche, la casse pour la refondre, c'est quasiment impossible à casser.
Ah oui, d'accord. Ouais. En plus, c'est un poison. Hein.
Voilà.
Enfin, techniquement, l'antimoine, c'est un poison. Je pense d'ailleurs que le nom doit tirer ses origines de choses pas très claires.
C'est possible, c'est possible qu'on ait voulu se débarrasser.
Je le sens, oui. Oui, donc ces cloches, il y en a 60, mais elles sont arrivées en plusieurs vagues.
Oui, tout à fait, en 3 ou 4 vagues, c'est-à-dire qu'on a eu des cloches qui ont été... D'abord, il y a eu un petit jet de cloches, ça a été agrandi après, et là-dedans, il y avait des cloches qui étaient fausses, qui sont reparties en fonderie pour être refondues, mais entre 1995 et 1925, on a toujours augmenté le nombre de cloches.
D'accord. Hein.
Et on s'arrêtait en 1925 à 60 cloches.
Oui, donc là, de toute façon, depuis que vous y êtes, il n'y a rien à bouger, des réparations et tout ça. Alors voilà, du coup, dans quel état c'est ?
Eh bien, l'état, c'est moi qui répare. Ouais. Bon, c'est du fil d'acier, de la corde à piano pour les transmissions. Mm-hmm. Il y a quelques, de temps en temps, quelques soudures à refaire. Mm-hmm. Sinon, lorsqu'il y a des besoins de gros travaux, de bouser des cloches, notamment. Mais bon, c'est pas pour le carillon lui-même, c'est plus pour le bâti, l'entretien du bâtiment. Oui. Là, mm-hmm. c'est le conseil général qui œuvre.
D'accord. Alors, vous trouvez où quand vous jouez ? Est-ce que vous êtes en haut ou en bas ?
Moi, je suis en haut au milieu des cloches. J'ai 13 cloches en dessous de moi et 47 au-dessus.
Voilà. Alors, du coup, je me posais la question quand je voyais la vidéo, mais ça, vous allez me dire. Alors, au niveau des oreilles, ça se passe comment ?
Au niveau des oreilles, moi, je suis dans une salle séparée au milieu des cloches, mais comme je vous dis, j'ai les cloches en dessus et en dessous. Mmh. J'ai un plancher, un plafond et juste une fente pour le passage des câbles au-dessus et en dessous. Et je suis assez bien isolé par rapport aux cloches. Je n'ai pas besoin de protection d'oreille particulière.
Ouais, d'accord. Bah, très bien, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de bruit. On a vu tellement de films, des histoires de cloches qui font du bruit qu'on se fait des idées aussi. Vous n'êtes pas juste à côté des cloches, parce que sinon, là, je crois que ça serait...
Oui, là, il y a des problèmes, des problèmes d'oreille. Oui.
Ah oui, là, vous seriez dans un mauvais état, à mon avis. Et oui, donc, alors, il y a le bourdon, hein, donc c'est la cloche la plus grave, le bourdon.
Voilà, ce qu'on appelle le bourdon, c'est la cloche la plus lourde du carillon qui, elle, fait 2 tonnes 100 à Buchloser.
Voilà, alors du coup, quand même, il faut que ça tienne. Alors c'est suspendu, c'est accroché avec quoi, ces cloches ?
Alors, quand on dit que les cloches, ça pèse lourd, bon, oui, ça pèse lourd en soi-même, mais je veux dire, elles sont accrochées fixes, elles ne bougent pas pour le carillon. Oui. Contrairement aux cloches de volée où elles balancent, pour le carillon, c'est un marteau ou un battant qui vient heurter la cloche lorsqu'on veut la faire sonner.
Oui.
Ce qui fait qu'en point de vue dynamique de poids, c'est pas énorme.
Oui, c'est juste... directement fixé à des grosses poutres.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Et le battant, alors, le battant, il est accroché au centre
de la cloche. Voilà, à l'intérieur de la cloche.
Et il est en quel matériau, lui ?
Lui, il faut qu'il soit en fer doux.
Oui.
Parce qu'il faut que ça soit le battant qui s'use avant la cloche.
Oui.
Ça coûte beaucoup moins cher de changer un battant que de changer une cloche.
Ouais. Donc alors la tige est en fer, mais aussi la sorte de boule.
La boule est en fer.
Ouais. Elle est en fer, oui, d'accord. Voilà. Oui, parce que si c'était un autre matériau, ça sonnerait moins. Hein, si on mettait du bois ou du...
Oui, le bois
ça peut exister, non, peut-être
le bois c'est mou, ça sonnerait moins, oui, mais des matériaux plus durs, par contre, ça abrumerait la cloche et ça détruirait la cloche.
Oui, ouais, d'accord. Oui, c'est ça, les matériaux, hein, c'est le plus faible qui cède en premier, voilà. Hein, c'est normal. Alors on va faire une nouvelle pause, on va écouter encore un petit peu de musique, ce coup-ci une musique un peu plus contemporaine, mais quand même en rapport avec l'émission, bien entendu, le Flash Info, et on retrouve notre invité pour la partie suivante de cette émission. Et voilà, de retour, ben c'était Anita Ward avec Ring My Bell, évidemment, hein, ça on pouvait pas le louper. Hein. Alors on va parler un petit peu aussi de l'écrin, hein, on a parlé du bijou un peu, mais on a moins parlé de l'écrin. L'écrin étant cette fameuse basilique. Alors, son histoire, et puis voilà, question, moi je me disais comme tout le monde, ah mince, mais c'est quoi déjà la différence entre une basilique, une église, une cathédrale ?
Alors, la basilique, ça peut être une église, ça peut être une cathédrale. La basilique, c'est un titre honorifique donné par le pape.
Directement, oui.
Directement. Mm. Qui, normalement, récompense un pèlerinage d'une certaine importance ou qui est bien suivi, quoi.
D'accord. Donc, il y a un pape bienveillant, un jour, qui s'est penché sur cette basilique et qui a dit, tiens, elle mérite cette appellation.
Du moins, c'est Monseigneur Bézac, en 1965, qui a interrogé le Vatican l'accord a été donné pour que l'église de Buchloser devienne basilique.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un pèlerinage. Enfin, ça se fait toujours, il y a toujours des pèlerinages à Buchloser.
Voilà, c'est le culte à Notre-Dame de Buchloser, voilà. Qui est une statue qui a été trouvée en 1620 dans les marécages.
C'est ça.
Qui a des vertus miraculeuses, et depuis, le pèlerinage a suivi sur cette statue.
Voilà, donc à une époque, évidemment, le carillon servait surtout à ça, en fait, à résonner pendant le pèlerinage, pendant
les cérémonies religieuses. Voilà, pas le pèlerinage. Bon, tous les jours, il y avait des pèlerinages, puisque Buchloser était là, comme je dis, 360 communes dans les Landes, 360 jours de pèlerinage à Buchloser. Chaque paroisse avait 100 jours. Et il y avait des processions entre l'église et la chapelle des miracles, et pour accompagner les chants des processions, à l'époque, il n'y avait pas les haut-parleurs ni tout ça, c'était le carillon qui accompagnait les chants.
Ouais, puis c'est plus sympa que...
C'est assez périlleux, parce qu'on est à distance des chanteurs, il y a 2-3 secondes de différence entre ce que je joue et ce qu'eux vont chanter, donc il faut jouer en avance, c'est assez compliqué.
Ah oui, c'est vrai, oui, parce que ça, vous l'avez pratiqué, ça?
Oui, je l'ai pratiqué, et c'est assez difficile.
Alors, vous faisiez avec un micro et un casque qui permettait d'avoir une réponse plus rapide, ou alors vous faisiez vraiment en jaugeant à la main, à l'oreille, le delta comme ça de temps.
Ceux qui chantaient avaient un micro, moi un haut-parleur dans la cabine, mais le temps que ce que je joue moi revienne aux gens qui chantent, là on perdait 2 secondes, donc il fallait que je joue les morceaux 2 secondes avant ce qu'eux chantaient.
Ah oula, c'est pas évident quand même.
Non, c'est pas évident.
Ah oui. Bon, maintenant, vous faites plus ça ?
Non, c'est fini.
Voilà. Alors, du coup, c'est quoi les activités, les animations autour de ce carillon ? Qu'est-ce que...
Eh bien, c'est principalement, c'est tous ces jeudis de l'année, je vous dis, à 15h30, où là, j'explique, je fais mes séances, je joue.
Oui.
Après, ce sera les gens sur demande pour des mariages, même pour des enterrements, choses comme ça, qui veulent le carillon pour accompagner la cérémonie.
D'accord. Donc, voilà. Donc leur mariage ou baptême sur demande, quoi. Voilà.
Sur demande, tout à fait.
Si j'avais envie, par exemple... sur le parking d'écouter le carillon, je peux venir vous voir et je vous dis tiens voilà, aujourd'hui à telle heure c'est possible d'avoir tel morceau,
voilà,
telle pièce.
Voilà, bon, faut se mettre d'accord, mais c'est possible.
D'accord. Est-ce qu'il y a des comment dire, quelque chose qui se joue avec la municipalité, etc. Quand vous faites vous jouez, est-ce que d'abord vous devez en parler, demander l'autorisation ? J'en sais, parce que ça fait quand même du bruit.
Non, je suis titulaire, je fais ce que... Bon, il ne faut pas contrarier des messes ou des choses comme ça pendant qu'il y a des cérémonies.
Oui.
À présent, au point de vue municipal, il n'y a aucun rapport, puisque le bâtiment et le carillon étaient une propriété privée du département des Landes, donc la commune n'a rien à voir là-dedans.
D'accord,
Il faut simplement l'accord de l'affectation. À terre, c'est-à-dire du curé.
D'accord. Mais en fait, on pourrait vous embaucher comme DJ, mais au lieu d'utiliser un platine, vous pourriez...
C'était le rôle, notamment dans les beffrois, d'animer les marchés.
C'est l'ancêtre du DJ, en quelque sorte.
Tout à fait.
Ouais,
et même les auteurs de musique payaient les carillonneurs pour jouer leur musique et qu'eux puissent vendre leurs partitions.
Ouais, voilà. Donc, c'est aussi l'ancêtre du DJ, l'ancêtre de la radio. C'était la voix qui portait.
Voilà, le moyen de communication, la voix du village, la voix de la ville.
D'accord. Et alors, est-ce que ça servait aussi à transformer de l'information?
Oui.
C'est-à-dire, je ne sais pas du morse, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais pendant les guerres, tout ça, ça a toujours servi à passer des informations.
Oui. Alors, et les cloches aussi, on en a parlé un petit peu, mais alors, elles viennent d'où ces cloches? Alors, elles ont été fondues où?
Alors, à Buglos, c'est la fonderie Paccard à Annecy, fonderie qui existe toujours, qui a fondu la très grande majorité des cloches. Il y en a sur 60, il y en a seulement 3 qui viennent de Tarbes.
D'accord.
Et l'expérience n'a pas été renouvelée puisque ces cloches sont mauvaises.
Ah, mince.
Voilà.
Alors, du coup, elles sont mauvaises, mais vous les jouez quand même, font partie du lot?
Je m'arrange pour trouver une transposition ces cloches ne jouent le minimum possible.
Ah ouais, c'est pas évident. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait 40 ans.
40 ans. Ah, vous avez acquis une relation particulière, une symbiose avec votre, votre instrument.
Avec l'instrument, tout à fait.
Ah oui,
tout à fait.
Vous le connaissez.
Tout à fait.
Il n'y a que vous qui pouvez le connaître aussi bien.
Ben oui, parce que le pratiquer, même au point de vue qu'il y a un incident mécanique et tout, au son, j'entends que tiens, là, il y a un truc qui ne va pas, le son n'est pas comme d'habitude, et je vais voir ce qu'il y a et je trouve la panne.
Et oui, c'est ça. Oui. Je parlais hors antenne avec mon invité, je parlais d'un endroit aussi qui est un peu unique dans les Landes, ils sont venus en parler ici, c'est le moulin de Bénesse, mais c'est pareil, c'est comme le meunier, lui, il connaît son moulin, il sait qu'il y a tel bruit, d'ailleurs, c'est des informations, les bruits, ça laisse supposer qu'il se passe quelque chose en ce moment-là.
Voilà, c'est pas normal, et il faut aller voir ce qu'il y a, et voilà.
Comme un bon garagiste,
tout à fait.
À l'oreille, il s'est dit, oula, il y a la bielle là qui ne va pas, Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, ce carillon, il est classé au patrimoine
Non. Ouais. Il joue, il est vivant. Donc, tant qu'il est vivant, il n'y a pas de raison de le classer.
D'accord. Bon. Et comment ça se passe par rapport aux habitants, etc. Est-ce que les gens, les rapports que vous avez avec les gens et tout, alors vous êtes de là en plus, vous êtes connu comme le loup blanc,
ils
sont contents?
Voilà, les gens l'ont toujours entendu, ça fait partie du village, c'est dans l'essence même de Buglos.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et à la limite, même quand je suis en vacances, ça joue pas, on va me dire, oh c'est triste, il n'y a pas de carillon, je suis dernier.
Et oui. Oui, c'est ça, j'imagine que les gens, c'est devenu vraiment, ça fait partie du patrimoine.
C'est habituel.
Bon, mais c'est chouette.
Je vous dirais, à Buglos, moi je joue... une fois par semaine.
Oui.
Mais vous allez à Bruges, en Belgique, où là, il y a un carillon automatique qui sonne toutes les 7 minutes et demie. Ouf. Tous les 7 minutes et demie, il y a, tous les demi-quarts d'heure, il y a un morceau de musique.
Ah oui, bon, ça peut être presque un peu embêtant pour les gens à côté,
oui, ils n'ont pas envie. Comme ils sont tous commerçants, camelots, machin, ils vivent de ça, donc ils ne se plaignent pas.
Ouais, ouais, voilà,
pas
ouais.
De problème.
Ouais, puis c'est des traditions, ça doit être comme ça depuis longtemps en fait.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Il y avoir quelqu'un avant qui faisait ça. Bon, le fait que ce soit mécanique, par contre, ça doit donner pas le même, entre guillemets, rendu feeling, parce que votre instrument, vous avez un clavier, vous avez la maîtrise de l'instrument, vous savez y mettre des nuances.
Tout à fait.
Dès qu'on met un truc automatique, c'est plus le cas.
Ah oui, c'est plus mécanique, quoi. C'est dans la grille, le temps, il règle le tempo. Quoi.
Ouais, voilà. Puis même sur l'intensité, vous pouvez mettre des nuances, plus ou moins fort, la manière dont vous actionnez les touches. Tandis qu'une machine, pour l'instant... Hein, encore les endroits où les machines ne vont pas nous casser les pieds, on espère.
Voilà. Et puis bon, les machines, ça tombe en panne. Que le carillonneur, il tombe moins souvent en panne.
Ah, ça peut lui arriver. Je ne vous le souhaite pas. Hein, je vous le souhaite pas. Est-ce que vous avez déjà eu alors des demandes un peu insolites, inhabituelles, une anecdote par rapport à des gens qui vous disent ben voilà, tel jour, telle heure, je veux ça parce que j'en sais rien pour tel événement
Non, bon, il y a eu quelques blagues pour les fêtes locales, des choses comme ça, pour des mariages où par exemple la mariée avait dit qu'elle voulait surtout pas entendre la chenille de la bande à Basile par exemple,
ah,
et
oui.
Les autres sont venus me voir et disent à la sortie, tu leur joues la chenille.
Ah, donc, c'est la voilà. Surprise là.
Voilà,
ah,
des choses comme ça.
Oui, oui,
des choses comme
là,
ça.
C'est sûr que là, ça peut être une surprise, oui. Et c'est possible, donc quand on vient vous voir, donc on vous entend jouer, mais aussi vous faites une visite, hein, vous êtes guide en quelque sorte.
Voilà, bah, c'est pas une visite, c'est plus une micro-conférence avant de jouer, puisque la visite, on peut pas y monter, puisque l'accès est interdit au point de vue commission de sécurité.
Oui, voilà. Oui.
Il y a des échelles, donc c'est impossible de faire monter du public, mais c'est plus une explication vraiment de l'instrument.
D'accord. Et alors, le carillon, donc, est-ce qu'il... Bon, vous dites, il est en bon état quand même?
Oh ben, je le maintiens à jouable. Bon, ouais. En état, non, il y aurait beaucoup de travaux à faire dessus, mais pour l'instant, bon.
Oui, qui c'est qui serait susceptible de prendre en charge? C'est le département qui prend en charge les rénovations, s'il y en a une?
Oui, essentiellement le département.
D'accord.
Bon, c'est un peu comme un locataire avec son propriétaire. Quoi. Il y a des réparations qui sont du locataire et d'autres du propriétaire.
Vous avez des échanges avec eux? Est-ce que des fois, vous avez une relation quelconque par mail ou quelqu'un qui...
Des visites sur place, des choses comme ça, oui. Quand il y a des problèmes, oui, je les fais venir. Oui.
D'accord, donc ils sont conscients d'avoir un patrimoine là local unique et à préserver.
Tout à fait, tout à fait.
Parce que ça c'est important.
Tout à fait.
Comme vous disiez, les gens de Buglos seraient pas contents si tout à coup s'arrêtait le carillon.
Le carillon, tout
à fait. Et alors parlons-en de ça, le carillon. Vous, ça fait 40 ans. Est-ce que vous avez songé, c'est un peu bête ma question, mais est-ce que vous avez songé à la transmission, à la suite? Est-ce que vous avez un apprenti carillonneur en vous disant, tiens, quand je vais arrêter, quelqu'un va reprendre?
Alors, le gros problème, c'est ce fameux accès qui n'est pas sécurisé, donc faire monter des jeunes là-haut, ce n'est pas évident, point de vue responsabilité. Après, j'ai formé deux jeunes qui, maintenant, sont sur la vingtaine, qui ont plus ou moins abandonné le carillon, mais je n'exclus pas que plus tard, ils reviennent vers l'instrument.
Oui. Parce que c'est pas évident de trouver forcément quelqu'un qui ait cette passion-là, soit mordu par ça, ouais.
Tout à fait. Et puis c'est assez ingrat comme instrument au point de vue jeu. Il y a vraiment une adaptation à avoir pour pouvoir en sortir des bonnes choses.
Oui, bien sûr. Alors j'ai une question un peu plus personnelle aussi sur vous. Alors est-ce que à la maison, chez vous, vous faites de la musique, voilà? Et si vous écoutez de la musique, qu'est-ce que vous écoutez en fait?
Bon, j'écoute la radio un peu comme tout le monde, un peu de tout. À présent, pour le carillon, je recherche plus j'écoute des vieux morceaux de musique, des choses comme ça, qui pourraient être adaptés au carillon. C'est pas évident, parce que déjà, il faut que le morceau soit connu actuellement. Et il faut qu'au point de vue mécanique, le morceau puisse passer sur l'instrument.
Et oui, parce que vous dites, il y a cette inertie, là, cette résonance là, qu'il faut gérer. Hein,
résonance aussi, le fait de devoir répéter rapidement la même note, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a tout un mécanisme qu'il faut qu'il réarme.
Et oui, oui.
Bon, théoriquement, l'instrument est capable de faire 6 notes à la seconde.
Oui.
Mais
à l'oreille, parce que ça donne. Parce que sûrement, quand ça continue à résonner, on arrive à bien les percevoir, chaque choc séparément.
Oui, mais comme la cloche continue à résonner, justement, c'est pas trop grave si au lieu de taper 3 coups, je tape que 2 coups.
Ouais, voilà,
comme la note est maintenue, ça va.
Oui.
Mais il y a certains morceaux où il faut vraiment que la répétition soit faite et en rythme, et c'est pas évident.
Oui, donc vous essayez quand même de tout le temps d'élargir votre répertoire.
Tout à fait.
Ouais.
De trouver des...
D'accord. Et chez vous, vous avez un piano?
Un piano, voilà. Un clavier d'études de carillon. Ah oui, un clavier coup de poing, mais qui tape sur les lames de xylophone.
D'accord, je vois. Ouais,
pour étudier l'instrument.
Ah oui, donc c'est vraiment votre vie. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Ouais, c'est devenu une passion depuis tout jeune. C'est chouette d'avoir ce rapport avec ce.
Oui, et puis on rencontre tellement de personnes extraordinaires là-dedans que c'est passionnant.
Oui. Mais oui, surtout que si vous faites des rendez-vous entre carillonneurs de France et même du monde.
Voilà.
Voilà, quand un carillonneur raconte un autre carillonneur, il raconte des histoires de carillonneurs.
De carillonneurs, voilà. Tout à fait.
Ben voilà, on va faire notre dernière pause. On va écouter aussi une célèbre cloche, on pourra peut-être en parler. Et on se retrouve ensuite pour la conclusion de cette émission. Ah, en voilà une cloche célèbre quand même. Hein. On en parlait un petit peu avec mon invité hors antenne. On écoutait, on a regardé un petit peu l'historique. Et donc, au départ, ils ont enregistré vraiment, un monstre, hein, une 4 tonnes. Hein. Et après, ils ont fait des répliques en concert d'une tonne 2 qu'ils utilisaient.
Oui, oui, tout à fait. Les certaines pièces, notamment, moi, je pense plus aux classiques, mais par exemple, l'Opéra de Paris a 4 ou 5 cloches en stock, des grosses cloches, parce qu'il les faut dans l'ouverture de Guillaume Tell.
D'accord.
Dans leur morceau.
Ah ouais, ça fait un gros placard pour garder sous le coude un truc qui sert une fois de temps en temps.
Un gros placard, attention, c'est du bronze, ça coûte très cher, puisque l'étain est un des matériaux les plus chers après l'or et l'argent. Et c'est un certain investissement pour servir 3 fois dans un morceau.
4 tonnes, oh la vache, c'est vrai que c'est énorme quand on y pense, que c'est pas un petit instrument. Hein. Alors donc, on va faire le petit rappel aussi. Ben voilà, donc quand est-ce que on va le redire, hein, à quelle occasion on peut vous écouter jouer. Donc c'est toutes les semaines.
Ben voilà, tous les jeudis à 15h30 depuis début février jusqu'à mi-novembre.
Donc demain après-midi.
Demain après-midi, la basilique de Buglose à 10 km de Dax.
Voilà. Et puis alors donc les gens peuvent aussi faire appel à vous pour des prestations entre guillemets.
Voilà, hein. Pour des événements, choses comme ça, mariages, des enterrements, des baptêmes. Ouais. Voilà, l'anniversaire aussi.
Bah, c'est vrai que c'est un peu, je veux dire, c'est un peu la classe d'avoir un vrai carillon, un vrai carillonneur pour un mariage, hein, plutôt qu'un enregistrement, ça a quand même un charme qui est difficilement remplaçable.
Tout à fait, bon, faut faire le mariage à Buglose, mais sinon après c'est tout
voilà. Bon. Ouais, ça, est-ce qu'il y a des dérogations? On peut se marier en dehors de sa commune, mais il faut avoir une bonne raison, non, je crois? Je sais pas comment ça se passe.
Je crois que, bon, au point de vue civil, oui, je crois qu'il faut, il y a une histoire de territorialité.
Territorialité, oui.
Mais je crois qu'au point de vue religieux, on peut se marier dans l'église qu'on veut. Quoi.
Ok, d'accord. Bon, ben, voilà. Donc moi, je dis aux auditeurs, si vous voulez vous marier à l'église, ben, allez à Buglose.
Allez à Buglose.
Vous aurez entendu parler de l'histoire du bâtiment, de l'instrument de musique et du carillonneur. Donc on a quand même la chance d'avoir un spécialiste sous le coude, si je puis dire. Eh bien, merci beaucoup, Denis Pierre. Ben, c'était vraiment sympa de découvrir et de faire découvrir aux auditeurs votre vie, votre passion et votre instrument qui est quand même à une échelle monumentale.
Bon, mais c'est moi qui vous remercie de pouvoir faire connaître l'art campanaire sur les ondes.
Très bien, merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.